VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
17h à Ouagadougou, 19h à Kigali, bienvenue à notre journal. Angola, le général à la retraite, João Lourenço, officiellement désigné ce vendredi pour succéder au président José Eduardo dos Santos à la tête de l'État, est un fidèle de la première heure du régime, dont il a gravi un à un tous les échelons politiques et militaires. Les précisions de Tatiana Mosso.
Actuel ministre de la Défense et vice-président du Mouvement populaire pour la libération de l'Angola, il fait partie du premier cercle du pouvoir. Sauf coup de théâtre, cet homme de 62 ans a toutes les chances de succéder au président José Eduardo dos Santos, qui a confirmé qu'il passerait la main à l'issue des élections générales d'août, après 37 ans de règne. Depuis les années 1970, le parcours de João Manuel Gonçalves Lourenço témoigne de sa loyauté sans faille au parti et à son chef. Nourri au marxisme-léninisme, les deux hommes ont étudié dans l'ex-Union soviétique qui a formé pendant la guerre froide les jeunes figures montantes de la décolonisation en Afrique. Le général Lourenço ne sort véritablement de l'ombre qu'en 2014 lorsqu'il accède au poste de ministre de la Défense. Soupçonné de vouloir passer la main à l'un de ses enfants, José Eduardo dos Santos a finalement laissé la place à João Lourenço lorsque plusieurs personnes haut placées dans le parti ont tapé du poing sur la table. Réputé modéré, João Lourenço se présente plutôt comme le candidat de la continuité.
En RDC, les autorités congolaises prêtent à organiser des funérailles appropriées pour l'opposant historique Étienne Tshisekedi, décédé à Bruxelles, où il s'était rendu pour des soins médicaux. Une commission est à pied d'œuvre au ministère de l'Intérieur pour des funérailles dignes d'un ancien Premier ministre et ancien vice-président de l'Assemblée nationale que fut M. Étienne Tshisekedi, a déclaré le porte-parole du gouvernement congolais Lambert Mende. Le chef de l'État a instruit le gouvernement afin que tout soit coordonné avec la famille et le parti du défunt dans l'organisation des différentes étapes des funérailles, a précisé M. Mende. Toujours en RDC, comment combler le vide laissé par la mort de l'opposant historique Étienne Tshisekedi dans le pays, alors que le décès de l'icône de l'opposition est survenu dans une période de négociations politiques cruciales pour mettre en place la nouvelle transition? La journaliste belge Colette Brackman, spécialiste de la RDC, est pessimiste pour la suite du processus. On l'écoute.
Je crains que dans un premier temps, avant de se ressaisir, l'opposition sera affaiblie par sa disparition. Dans les rangs de l'UDPS, il y a pas mal de personnalités fortes, de gens tout à fait qualifiés, mais quelqu'un qui a le pouvoir, disons, de, charismatique presque, de faire descendre la population dans la rue, de mobiliser les foules pour soutenir ses idées et en cas d'échec, par exemple, de susciter de grandes manifestations, quelqu'un qui a cette même aura, pour l'instant, je n'en vois pas, à part peut-être le ex-gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi, mais il n'est pas dans le pays pour l'instant, il n'est pas autorisé à y revenir.
Colette Brackman à Bruxelles. Cameroun, le président camerounais Paul Biya a déclaré ce vendredi que la guerre que son pays mène contre le groupe islamiste nigérian Boko Haram ne s'achèvera que par la défaite définitive des djihadistes. Des propos tenus lors d'une cérémonie d'hommage à Yaoundé en l'honneur de 4 officiers morts dans un accident d'hélicoptère le mois dernier. Notamment le général Jacob Kodji, commandant de l'opération Emergence 4 dédiée à la lutte contre Boko Haram. Au Tchad, le président tchadien Idriss Déby Itno, allié majeur de l'Occident en Afrique subsaharienne dans la lutte contre les djihadistes, s'est lui aussi déclaré optimiste sur l'issue du combat contre Boko Haram lors d'une conférence de presse hier soir à N'Djamena. Le chef de l'État tchadien a aussi parlé de son avenir politique et des perspectives futures du Tchad. On l'écoute.
J'aurais bien souhaité me retirer et me reposer. Si vous, Tchadiens, vous êtes capables demain de ne pas vous affronter entre vous, de ne pas semer la haine ou de ne pas vous entretenir. La haine aujourd'hui qu'on cultive, vous croyez que c'est rassurant cela? Et je disais que vous avez vu un jour un chef d'État prendre une arme et aller se battre. Vous croyez que je l'ai fait parce que je suis brave? Je l'ai fait parce que je suis courageux? Non! Je le fais parce que j'aime ce pays et je ne veux pas que le désordre s'installe dans ce pays. Donc j'ai préféré aller mourir sur le terrain et ne pas voir le désordre qui s'en suivra. Mais Dieu merci, mon heure n'est pas arrivée encore. Mon acte de naissance est encore entre les mains de Dieu. Il n'a pas déchiré.
Le président tchadien Idriss Déby Itno.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Les États-Unis ont imposé de nouvelles sanctions contre l'Iran suite au tir de missiles balistiques que la République islamique avait effectué dimanche. Un tir considéré par Washington comme une violation des sanctions mises en place par l'ONU contre Téhéran. 13 hauts responsables iraniens et une douzaine de compagnies, dont certaines ont leur siège en Chine ou ailleurs hors d'Iran, sont visées par les nouvelles sanctions annoncées aujourd'hui par le ministère américain du Trésor. Toujours aux États-Unis, le nouveau secrétaire d'État américain Rex Tillerson a promis de travailler pour le succès de la diplomatie américaine, tout en disant compter sur la collaboration et l'expertise d'un personnel diplomatique pas entièrement acquis à la cause du nouveau président Donald Trump. Plus de 900 employés du département d'État ont en effet signé une pétition contre les récentes mesures du chef de l'exécutif américain sur l'immigration. Les explications de Leonard Wanchekon, professeur de sciences politiques à l'Université de Princeton, ici aux États-Unis, au micro de Gabi Dorsil.
C'est très inquiétant, hein, de mon point de vue, parce que la Russie, c'est quand même pas le modèle de la de démocratie. La Russie, c'est pas le modèle, même dans le monde des affaires, c'est pas le modèle de transparence et d'éthique. J'aurais même préféré la Chine, de ce point de vue, parce que bon, ils essaient de faire les choses d'une autre façon. Et le système chinois, c'est un système qui est loin d'être aussi répressif et aussi autoritaire que le système russe, quoi. Voilà. Donc, avec tout ce qui se passe sur le plan international actuellement, et notamment dans les pays de l'Est, l'Ukraine en particulier, c'est quand même difficile à comprendre, hein, que quelqu'un qui a des rapports aussi étroits avec l'un des adversaires les plus acharnés des États-Unis, que le ministre des Affaires étrangères des rapports privilégiés avec celui-là.
Quelle direction voyez-vous prendre la diplomatie américaine sous Rex Tillerson?
C'est difficile à dire, hein. Ce qui est clair, c'est que les rapports avec la Russie vont s'améliorer, peut-être pour le meilleur ou le pire. De l'autre point de vue, je pense que l'Afrique en particulier sera pas une priorité, parce que l'enjeu économique là-bas n'est pas aussi élevé que l'Asie et l'Europe de l'Est en particulier. Et je pense que ça risque aussi d'être une diplomatie, une politique étrangère assez musclée.
43 sénateurs sur 100 n'ont pas voté pour Rex Tillerson. Il va diriger un département actuellement en pleine grogne. Il y a plus de 900 employés qui ont signé une pétition dénonçant le décret sur l'immigration du président Trump. Il va devoir être bon manœuvrier.
C'est ça, mais je ne sais pas s'il va le faire. Mais ce qui est intéressant, ce que je trouve très rassurant, et c'est ça la leçon, tout le monde parle de tout le négatif, tout le mal qu'on pense de Donald Trump. La situation telle qu'elle se présente, elle est inquiétante dans un certain sens, mais elle est aussi très rassurante dans un autre. Donc il y a une résistance et une opposition de plus en plus farouche, de plus en plus osée de la part non seulement des populations, mais en fait même au sein de l'administration, au sein des gens qui sont censés seulement obéir. Les gens disent non, nous avons le devoir de dire non à des choses auxquelles on ne croit pas.
Leonard Wanchekon, professeur de sciences politiques à l'Université de Princeton, ici aux États-Unis. On passe maintenant à la Coupe d'Afrique des Nations de football au Gabon. Le Cameroun affrontera le Ghana dans la finale de la compétition. Les Lions indomptables camerounais ont battu le Ghana 2-0 hier soir en demi-finale à Franceville. Retour sur la victoire des Lions indomptables sur les Black Stars ghanéens avec Timothée Donangma, l'envoyé spécial de VOA Afrique au Gabon.
Les Lions du Cameroun ont résisté d'entrée de jeu aux assauts des Black Stars, puis ont peu à peu pris confiance et sont passés à l'offensive. Des efforts récompensés à la 71e minute par un but de Gadeux, puis celui de Bassogog aux arrêts de jeu. Hugo Bros, le sélectionneur du Cameroun, confiera plus tard qu'il croyait rêver.
On a commencé le match avec quelques occasions. Les deuxième mi-temps, à certains moments, on a un peu souffert. Mais là, naturellement, il faut un peu de chance. Et cette chance, nous avons eue au moment qu'on marque le premier but. Le deuxième but, ben, là, le Ghana a tout essayé pour égaliser. Et l'espace était là et on a marqué ce deuxième but. Encore une fois, je suis très content, surtout pour le groupe.
Pour le coach des Black Stars, Avram Grant, les Camerounais ont gagné contre le cours du match.
Nous avons tout fait pour être dans la finale.
Nous avons tout fait pour être en finale. Nous avons dominé le match en seconde période complètement, a dit le coach Avram Grant, qui a tout de même souhaité bonne chance au Cameroun. Les Lions indomptables, dont on ne vendait pas cher la peau avant cette CAN, croiseront en finale les Pharaons et un style de jeu similaire au leur, avec une solide défense et de fulgurantes contre-attaques. Timothée Donangmaï, France Lille, VOA.
Plus d'infos sur notre site internet.